Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Comme tous les dimanches soirs, ça fait débat. Bonsoir à vous Frédéric Dabi.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Directeur général de l'opinion à l'IFOP et bonsoir à Marion Parizet.
Bonsoir.
Spécialiste en politique publique, secrétaire général du cercle de réflexion Le Millénaire. Nous avons, en tout cas nous trois, lu l'interview de Marine Le Pen ce matin dans le journal du dimanche, qui d'ailleurs le dit assez... J'allais dire assez facilement, Frédéric Dabi, je ne veux pas, en cas de dissolution, être Premier ministre.
Oui, pour moi, c'est l'annonce majeure hein, qui est loin des préoccupations des Français. Et puis la dissolution, on en a parlé ici ces dernières semaines. Les Français ne sont pas du tout là-dedans. Il y a un très fort taux d'indifférence, une majorité relative et plutôt opposée. C'était une enquête IFOP JDD de cette semaine. Mais ce qui est très intéressant, c'est la capacité de Marine Le Pen à se projeter quasiment jusqu'en 2027. Mmh. Refuser le poste de Premier ministre, donc elle intériorise une victoire du RN à une élection législative, ce qui bien sûr serait un coup de tonnerre politique. Et je dirais qu'elle connaît sa 5e République comme sa poche, Marine Le Pen. Elle connaît l'enfer de Matignon, qui a coûté la présidentielle à tous les premiers ministres cohabitants, Jacques Chirac en 88. Il ne faut pas oublier Édouard Balladur, le grand favori des sondages jusqu'en janvier en 95, et Lionel Jospin, pourtant populaire. Donc elle-même, elle est sur la ligne, si je puis dire, et ça peut faire hurler dans la Chiraquie, Chirac 93, qui lui avait dit « Non, je ne vais pas me faire avoir deux fois, je vais envoyer mon ami de 30 ans, Édouard Balladur, à Matignon ». On sait comment ça s'est passé, il y a eu une guerre à droite que la droite continue à payer.
Et il y a un très bon podcast de Catherine Ney, là-dessus, dans la série d'Europe 1 Studio.
Donc voilà, je trouve fort qu'elle...
Pour les inséparables.
Alors qu'elle dit qu'elle elle ne sait pas si elle est candidate, elle analysera la situation dans quelques années, et c'est assez... Elle ouvre le parapluie, mais c'est assez bien dit. Mais en tout cas, ce qui est extrêmement fort, c'est qu'elle est en rupture avec le schéma, Chirac mis à part en 93, de la 5e République en période de cohabitation, où c'est le chef de parti ou le leader, parce qu'elle n'est plus chef de parti aussi. Est-ce que ça veut dire un Bardella à Matignon? On va un petit peu loin, bien sûr. Hein, le RN est loin d'être majoritaire, même si dans notre enquête de la semaine, il y a une quinzaine de jours, notre première projection pour une dissolution, le RN ferait sans doute mieux en nombre de députés qu'en juin dernier. En tout cas, pour moi, c'est l'événement de cette interview. Le reste est un peu moins surprenant.
Mais d'autant que je note que dans le baromètre Paris Match, IFOP, Marine Le Pen est 10e personnalité politique préférée des Français, Marion Paris.
Oui, elle jouit quand même
pas
d'une
du tout,
forme.
Il y en a 50 au total.
Il y en a... Bon, elle est quand même dans le haut du panier, on va dire. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous pose un schéma, la présidence, sinon rien, pour elle, d'une certaine manière. Elle se positionne dans cette dynamique-là, avec une logique qui est claire, qui est qu'elle serait abîmée par le fait d'accepter tout autre poste, de manière très claire hein, et de manière très simple. Elle est consciente, je pense, aussi des limites de son parti, que même si ses chances d'augmenter son nombre de députés en cas de dissolution sont non négligeables, le fait d'obtenir la majorité et de pouvoir imposer une cohabitation, c'est quand même relativement faible. Et derrière, elle sait que même si elle arrivait jusque-là, être Premier ministre ne lui permettrait pas d'appliquer ce qu'elle souhaite appliquer, son programme, et donc la mettrait dans une position en porte-à-faux où elle ferait de toute façon défaut à son électorat.
Frédéric
Gabi. Moi, je partage complètement ce que vous dites, et elle envoie deux signes forts en disant la présidence ou rien. Premièrement, premier signe fort, c'est l'alternative, c'est moi. Et dans ce baromètre IFOP fiducial pour Paris Match, il y a une question qui incarne le mieux l'opposition à Emmanuel Macron. Et on voit depuis des mois la NUPES, la France Insoumise apparaître plutôt que dans une fonction tribunicienne quand le RN apparaît comme une alternative. Donc premièrement, je suis l'alternative. Et deuxièmement, dire la présidence ou rien, qu'est-ce que ça veut dire Pierre? Ça veut dire qu'elle se préparait à une quatrième candidature
campagne
de suite.
Campagne
la
très
dernière,
Arlette
Laguiller, on était à 6 ou 7, je crois. Donc, c'est une manière de dire aussi mes défaites assez cinglantes en 2012, ce catastrophique débat de 2017 et cette défaite, malgré tout, assez nette, 5 millions de voix d'écart avec Emmanuel Macron. Comme disent les jeunes ou les enfants, même pas mal, je continue car je veux être le successeur, la successeur du président Macron.
Ouais, et j'allais dire, c'est peut-être quelque part aussi dans la lignée de Jean-Marie Le Pen qui a occupé la place depuis 1974. Il n'était pas question pour elle de nier cela. Je m'arrête juste une seconde parce que Europe 1, c'est aussi l'information en direct et on apprend à l'instant par le vice-président turc que l'attentat à Istanbul, est à l'origine d'un kamikaze, en l'occurrence une femme kamikaze qui s'est fait donc exploser dans cette rue passante, avec un bilan qui sans doute va s'alourdir et dont on reparlera bien sûr dans le journal de 19h. Pardon, Marion Parizet. Non, m'arrête là pour cette incise.
Oui, non, c'est vrai que sur Marine Le Pen et sa volonté d'aller à la présidentielle en 2027, elle ne l'annonce pas clairement dans cette interview, mais entre les lignes, on peut lire toute sa volonté. Et c'est normal. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait s'arrêter si près du but, en quelque sorte? En effet, elle a eu des... Ça s'est mal passé en 2012. En 2017, elle a été... son image a été fortement écornée par ce débat. Mais elle s'est relevée et elle a progressé au fur et à mesure. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté, finalement, un peu d'appât du gain. On s'est dit, au bout d'un moment, ça va finir par passer. Et aujourd'hui... dans un paysage politique où elle voit très bien que Éric Zemmour n'a pas réussi à s'ancrer, où les LR sont en difficulté pour trouver leur incarnation et trouver leur positionnement, elle a son moment pour essayer de mobiliser au maximum.
D'autant qu'on est dans une période où on parle encore dernièrement avec le Sean Viking d'immigration. Et à l'instant, avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, on indiquait plusieurs sondages d'opinion. Un vieux sondage qui remonte au printemps dernier, Sopra Storia, et vous avez peut-être quelque chose de plus frais, Frédéric, 60% des Français pensent qu'il y a trop d'étrangers aujourd'hui en France. Un sondage du 26 octobre, CSA pour CNews, près de 8 Français sur 10, 79%, estiment que le gouvernement n'est pas assez efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. Voilà. On est quand même dans un contexte...
On est dans un double contexte. Premièrement, et il faut le dire à nos auditeurs, l'immigration, quand on la compare aux autres priorités, aux autres gens, aux autres enjeux pour les Français, n'est pas le premier enjeu. Loin de là. C'est le triptyque santé,
pouvoir d'achat,
inflation, éducation, et puis derrière, l'insécurité, la délinquance, y compris le terrorisme, alors même que la France est... et Dieu merci, épargné depuis quelques années par des actes terroristes.
Sur ce sujet de délinquance, n'est pas corrélée la question de l'immigration?
Alors, ce n'est pas corrélé, même si, pour la première fois, une majorité très importante de Français opère un lien entre immigration et insécurité. Donc, ce n'est pas la priorité, mais c'est un enjeu. C'est un enjeu par rapport auquel j'ai vu ces dernières années, on avait fait une grosse enquête en 2018 avec la Fondation Jean Jaurès et le Journal du Dimanche sur l'immigration. On voit depuis 2015, on va dire depuis les vagues migratoires, depuis les attentats, la séquence 2015-2016, un durcissement spectaculaire de l'opinion publique. Quand on interroge les Français sur l'immigration, les deux clés d'entrée, ce n'est plus l'intégration, c'est la lutte contre l'immigration clandestine et c'est la reconduite des clandestins à la frontière et la mauvaise intégration. Le durcissement de l'opinion publique, c'est un sondage assez récent, IFOP pour l'humanité, où on teste toute une série de valeurs et de phrases. On a quasiment deux tiers des Français qui considèrent, en reprenant la célèbre phrase de Bernard Stasi, ce qui était un livre, « L'immigration est une chance pour la France », que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte. Et c'est même majoritaire à gauche, même si c'est un sujet extrêmement clivé gauche-droite. Et puis, il y a des contingences économiques. On sait ce qui se passe en ce moment. L'idée, c'est un petit quart des Français qui considèrent que la France a les moyens économiques d'accueillir des étrangers. Mais, il y a un mais, parce qu'au-delà de ce durcissement, je suis frappé de voir dans ce sondage que presque une personne sur deux considère que les étrangers résidant en France depuis plusieurs années devraient avoir le droit de vote aux élections municipales. Et j'en viens à l'Ocean Viking, ou ce qu'on a vu par le passé dans l'Aquarius. On trouve une petite majorité de Français, c'est très clivé politiquement, générationnellement, qui considère que c'est le devoir de la France d'accueillir des personnes fuyant la guerre ou la misère. Donc il y a ce durcissement.
Sans aucune forcément référence aux droits de l'homme, etc. C'est juste...
C'est l'idée, on est assez rocardien. On se souvient de cette fameuse phrase de 88 ou 89 de Michel Rocard. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On s'est arrêté sur cette phrase-là.
Elle a vu la suite.
Voilà, elle doit prendre sa part. Donc on est quand même sur cette logique de durcissement, mais pour autant, la tradition d'accueil est toujours vivace.
Oui, alors que Bruno Retailleau, ce matin dans le Grand Rendez-vous, a repris cette phrase de Bernard Stasi en disant que non, l'immigration n'était pas une chance.
Et les Français le suivent.
Pour la France. Marion Parizet.
Cette phrase, elle est juste, mais je pense qu'il faut bien voir aussi la façon dont est perçue l'immigration. Il y a en effet cette volonté d'accueillir ceux qui fuient leur pays parce que guerre, misère, mais quel type de misère? Aujourd'hui, les Français veulent accueillir. Ce n'est pas nécessairement la misère économique, mais vraiment les personnes qui voient leurs droits menacés parce que en opposition politique, les personnes qui sont vraiment dans une démarche d'obtenir un statut de réfugié et pas simplement l'immigration économique qui, elle n'est pas comprise par les Françaises. Parce qu'aujourd'hui, les Français sont dans une situation qui est elle-même étendue du fait de la conjoncture économique. Mais ce durcissement d'opinion publique dont on parlait, il est d'ailleurs plus large qu'à l'échelle de la France. Il se passe à l'échelle de l'Europe. C'est quelque chose qu'on a déjà vu au Royaume-Uni, qu'on a vu en Italie, qu'on a vu en Espagne, il me semble, en Allemagne aussi. Même si l'Allemagne avait accueilli très largement et continue d'accueillir un grand nombre d'étrangers.
Expliquez-moi dans ce cas-là, comment est-ce que dans certains pays... Explique-moi plutôt la disparité des décisions et des process dans les pays de l'Union européenne. Je prends un pays comme le Danemark, où les décisions ont été prises de manière extrêmement ferme, extrêmement radicale, et il n'y a plus rien à dire. Et on n'a aucun, ténor de l'Union européenne qui est allé redire à ce qu'a décidé Copenhague.
Des questions géographiques, quand on voit la position du Danemark, on ne peut pas... Difficile de tenir la même position quand on est en Italie, en Espagne ou en France.
Non, mais ils ont une immigration. Il y a aussi des immigrants qui veulent aller au Danemark. Et le Danemark dit non. Voilà. Non.
Oui, alors je ne suis pas spécialiste de la question danoise pour être tout à fait sincère.
Ah mais bon c'est... Veuillez Frédéric Dabus.
ça.
Daborg.
Je connais plus, c'est suédois, je connais plus le football danois que...
c'est déjà un commencement.
C'est un commencement. Mais tout ça, non. Mais c'est vrai que l'opinion publique, si je reviens à l'opinion publique française, est assez frappée par la complexité des décisions, l'hétérogénéité selon les pays et peut-être, et c'est là où il y a peut-être un point de faiblesse du côté de ce qui vient de se passer en France avec l'Ocean Viking, le sentiment que la France a changé de pied par rapport à l'Aquarius. On sait pourquoi l'Italie a refusé de les accueillir, mais c'est vrai que l'idée, et je reviens à des enquêtes d'opinion sur si on commence à accueillir des bateaux, il y a un risque d'appel d'air important, il faut le dire, et majoritaire, très nettement, chez les Français. Pour autant, je le disais, il y a cette tradition d'accueil qui fait que la logique d'immigration zéro... Alors, il y avait eu un sondage d'un de mes confrères, je crois pour vos confrères de CNews, sur le concept d'immigration zéro. Je l'avais un peu remis en cause parce que qu'est-ce que les Français mettent derrière l'immigration zéro ? L'immigration zéro, ça paraît difficilement tenable, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, et sans aller sur le cas danois, et à mon avis, le cas hongrois et le cas polonais doivent être relativement équivalents.
Les Polonais, en attendant, ils ont accueilli 4 millions d'Ukrainiens.
D'Ukrainiens, oui, bien sûr, voilà. Équivalent, mais différent compte tenu de l'Ukraine.
Mais la question, il n'y a aucune question qui s'est posée.
Mais l'Ukraine, Pierre, on a bien vu ce qui s'est passé en France pendant la campagne présidentielle, où toutes les familles politiques, y compris les électeurs potentiels d'Éric Zemmour, chose qu'ils n'avaient pas compris, étaient favorables à l'accueil de réfugiés ukrainiens en France.
Moi, j'ai des souvenirs de quelques déclarations de Marine Le Pen qui n'étaient pas totalement là-dessus non plus.
Il y avait plus de nuances.
En tout cas, il y a eu un consensus assez fort
qui était lié à une proximité culturelle perçue, à défaut d'être nécessairement réelle, parce que dans les faits, les réfugiés ukrainiens, ils peuvent avoir des cultures qui sont très différentes selon l'origine qu'ils ont, même en Ukraine, parce que c'est un pays qui est très divers. Mais ce qu'il faut voir dans le sein de l'Union européenne, c'est qu'on a aussi, je pense, des divergences entre le leadership allemand, qui a aussi cherché à faire valoir une approche d'accueil des migrants en Union européenne, parce que ça servait aussi leur modèle économique avec une démographie qui est déclinante et qui leur permettait aussi de pouvoir combler des manques dans l'industrie, de pouvoir avoir des travailleurs finalement qui aidaient, comme la France a pu le faire dans les années 70 d'ailleurs, d'une certaine manière, de pouvoir alimenter leur modèle économique et de maintenir finalement leur dynamisme. Est-ce que pour le Danemark, c'est passé parce que c'était un pays qui, même s'il accueille des immigrés, finalement, on accueillait significativement moins et n'avait pas un rôle aussi pivot dans la politique d'accueil des migrants que ne l'a l'Italie, la France ou l'Espagne, qui sont peut-être déjà soit des pays de transit, soit des pays en tout cas qui ont une forte attractivité, même parce que le modèle qu'on propose, notamment en France, est un modèle d'accueil de manière assez large et qui propose des droits aussi aux migrants qui sont significatifs par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Donc il y a aussi cette double tendance aussi.